VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. L'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen reconnu par l'ONU, GNA, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival. Le maréchal Haftar avait demandé lundi soir un délai de réflexion jusqu'à ce mardi matin avant de signer l'accord formel de cessez-le-feu accepté par son rival Fayez al-Sarraj. Mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature sur le document négocié sous l'égide d'Ankara et Moscou, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé aujourd'hui d'infliger une leçon à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, s'il reprenait ses attaques contre le gouvernement de Tripoli après qu'il a quitté Moscou sans signer cet accord de cessez-le-feu. Face à une menace djihadiste persistante, les dirigeants des pays du G5 Sahel et la France ont annoncé lundi la mise en place d'un nouveau cadre opérationnel avec des priorités redéfinies et une action concentrée sur la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Concrètement, le nouveau cadre prendra la forme et le nom d'une coalition pour le Sahel, rassemblant les pays du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, la France, les partenaires déjà engagés et tous les pays et organisations qui pourront y contribuer. La coalition militaire aura un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel en intégrant les forces de renseignement, les forces militaires sur la zone des trois frontières avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. On écoute lors du sommet de Pau en France, le président Emmanuel Macron.
Les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France à travers Barkhane. Deuxième remarque que je voulais faire, c'est que nous avons clarifié, comme l'a dit le président Caboret, les objectifs qui sont les nôtres. L'objectif militaire, c'est la zone des trois frontières entre Mali, le Burkina et le Niger. La priorité, c'est l'État islamique du Grand Sahara, ce qui ne nous empêche pas de combattre tous les groupes armés terroristes. Mais c'est l'ennemi prioritaire, car c'est le plus dangereux tel qu'avéré. Pour atteindre cet objectif, nous changeons la méthode en mettant en place une coalition militaire avec un commandement conjoint entre la force Barkhane et la force conjointe du G5 Sahel, en concentrant nos efforts sur cette zone. Et donc en intégrant nos forces de renseignement, nos forces militaires sur cette zone avec une latitude d'engagement beaucoup plus forte. L'objectif politique, c'est la consolidation de l'État, le retour de l'État partout, dans toutes les régions. Et nous avons évoqué le retour, justement, de l'État malien à Kidal. Le but de nos ennemis, c'est l'effondrement de la souveraineté nationale. Et c'est le même défi auquel est confronté le président Issoufou par les attaques répétées. Et je veux encore une fois le remercier d'être parmi nous quelques jours après une attaque très dure et une situation intérieure extrêmement dure. Mais il sait combien l'engagement commun que nous prenons ce soir est aussi clé à ses côtés. Nous aurons une conférence sur le Sahel le 26 mars prochain à Bruxelles. Et puis nous avons acté une clause de rendez-vous avant l'été à l'invitation de la future présidence en exercice du G5, la Mauritanie. Dans 3 mois, un rendez-vous au niveau ministériel et une coordination bimensuelle pour justement faire avancer ce sujet. Cette coalition et tout ce travail est inséparable de 2 autres engagements sur lesquels les États présents et la communauté internationale continuent d'agir. La crise dans la région du lac Tchad et évidemment la situation en Libye.
Voilà, c'était le président français, le président Emmanuel Macron. Il a dit le prochain rendez-vous a été fixé à Nouakchott, en Mauritanie, où un nouveau sommet associant les États du G5 Sahel et la France se tiendra au mois de juin, en été donc. Kigali annonce que les jours de FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, sont comptés en République démocratique du Congo. En fait, les autorités rwandaises réagissaient à une lettre des rebelles Hutus rwandais qui dénoncent un accord secret entre Kigali et Kinshasa. Un ressortissant américain incarcéré depuis 2013 en Égypte, Mustapha Kassem, dont le cas avait été soulevé à plusieurs reprises par Washington, est décédé lundi en prison. Une mort jugée inutile, tragique et évitable par les États-Unis. Elles accusent toutefois les autorités égyptiennes de négligence dans le suivi médical de Mustapha Kassem, un égypto-américain de 64 ans qui souffrait de diabète et de problèmes cardiaques.
Nos infos sur voaafrique.com.
L'Iran a procédé à des arrestations dans l'affaire de la catastrophe du Boeing ukrainien abattu par erreur par un missile iranien près de Téhéran, tuant les 176 passagers à bord, a annoncé aujourd'hui le porte-parole de la justice. Il s'agit des premières arrestations annoncées par Téhéran depuis le crash le 8 janvier de l'avion qui transportait en majorité des Iraniens et des Canadiens quelques heures après des tirs de missiles iraniens contre des bases militaires en Irak en représailles 5 jours plus tôt à l'assassinat du général Qassem Soleimani. Le groupe de coordination des pays dont des ressortissants sont morts dans le crash de Boeing en question en Iran se réunira jeudi à Londres à l'initiative du Canada, a annoncé hier le ministre canadien des Affaires étrangères. Ce groupe créé par le Canada dans la foulée du drame réunit également le Royaume-Uni, l'Ukraine, la Suède et l'Afghanistan. Ces pays se sont déjà parlé à 2 reprises par téléphone, notamment pour réfléchir à d'éventuelles compensations financières depuis l'accident mercredi du Boeing 737 de Ukraine International Airlines qui a fait, je le rappelle, 176 morts, dont 57 Canadiens. Les forces armées iraniennes ont reconnu avoir abattu l'avion par erreur. La présidente démocrate de la Chambre des représentants ici aux États-Unis, Nancy Pelosi, réunit ses troupes ce mardi en vue de la transmission au Sénat de l'acte d'accusation contre Donald Trump, signalant ainsi l'imminence du procès en destitution du président américain Donald Trump. Il s'agit pour les démocrates de fixer les modalités et le calendrier de cette procédure historique. Ils devraient également définir quels élus de la Chambre joueront le rôle de procureur lors du procès du président républicain accusé d'avoir abusé de sa fonction pour convaincre l'Ukraine de s'allier un de ses rivaux puis d'avoir entravé l'enquête du Congrès. Cinéma à présent, le film Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix dans le rôle principal avec 11 nominations est donné favori de la 92e édition des Oscars et ce sera le mois prochain. Le point avec Kiki Abadou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Joker est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario et de nombreuses catégories techniques. Il est au coude à coude avec 3 autres favoris, The Irishman, thriller politico-mafieux de Martin Scorsese, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendes avec 10 nominations chacun. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt défendront les couleurs de Once Upon a Time in Hollywood, ode de Tarantino au cinéma et à Los Angeles des années 1960, tandis que 1917, film sur la Première Guerre mondiale construit comme un plan-séquence long de 2 heures, fait très fort dans les catégories cinématographiques et techniques. Camouflé notable de l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, le vétéran Robert De Niro n'a pas été retenu. Ses complices Al Pacino et Joe Pesci, dont The Irishman, vont se disputer la catégorie du meilleur second rôle masculin. L'Académie a en revanche fait une place remarquée à Parasite de Bong Joon-ho. Palme d'or du dernier festival de Cannes, le film sud-coréen a décroché 6 nominations, dont celle du meilleur film étranger. Les Oscars 2020 seront remis à Hollywood le 9 février prochain.
Merci, Kia. Plusieurs opérations de police se déroulent aujourd'hui dans toute l'Allemagne contre des milieux islamistes soupçonnés d'avoir projeté un attentat dans le pays. Ces perquisitions concernent des personnes d'origine tchétchène liées aux milieux islamistes, a précisé le parquet. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive concernant la menace islamiste pesant sur le pays depuis un attentat au camion Bélier dans un marché de Noël revendiqué par le groupe État islamique qui a fait 12 morts en décembre 2016 à Berlin. Et puis, la nouvelle du jour, c'est que l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen reconnu par l'ONU, GNA, a quitté aujourd'hui Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival, selon la diplomatie russe. Le maréchal avait demandé hier soir un délai de réflexion jusqu'à ce matin avant de signer l'accord formel de cesser le feu accepté par son rival, Fayez al-Sarraj, mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature sur le document négocié sous l'égide d'Ankara et de Moscou, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis pour un nouveau journal. Nous sommes le mardi 14 janvier 2020. Bon après-midi à tous et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.